Pierre de Villeneuve.
Avec à mes côtés, bien sûr, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney. Éric Zemmour était hier à Toulon, non pas en rade de Toulon, on quitte les sous-marins un instant, à Toulon, puisque aujourd'hui il part à Nice pour présenter son livre. Parterre choisi, place réservée, 800 maximum. Et toujours pas de fumée blanche. Zemmour se donne le temps. Alors pour l'heure, le slogan, c'est qu'il est candidat au débat.
Je choisis toujours mes moments et c'est à moi de choisir le moment, à moi de décider. On a mes consciences, c'est pas une décision facile, vous savez. Et après, j'annoncerai, vous inquiétez pas, je le dirai. L'échéance, il n'y a pas de date précise, mais ça sera avant avril. Hein.
Voilà, Zemmour qui laisse planer le suspense de cette candidature avant avril. Bon, bah, comme ça, au moins, on est...
Il dit que ça le sait. Il a l'honnêteté de dire que c'est dans son intérêt... de laisser planer
oui,
le suspense.
Exactement.
Alors au moins il dit la vérité. Bien sûr, c'est dans son intérêt puisqu'il parle, on parle de lui, il devient le centre du débat. Mais la vraie question aujourd'hui où un sondage l'a donné, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais où un sondage l'a mis à 10%, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'est pas candidat et qui sort un peu de nulle part par rapport au monde politique. Donc est-ce qu'il sera celui qui fait, vous avez utilisé le mot, turbuler le système. Il semble, et j'ai assez tendance à reprendre. J'ai écouté Manuel Valls.
Il y a un copyright. Hein.
Récemment, bon. Il y a 2-3 jours, Manuel Valls parlant de Zemmour. Et on lui a dit, mais croyez quand même pas que Zemmour peut devenir président de la République. Et Valls a eu cette parole. Aujourd'hui, tout est possible. Et ajoutant, il peut être, et quelqu'un a ajouté derrière lui, il peut être l'artificier qui fait exploser le système. Il y a un peu de ça, si vous voulez. Oui. Il y a un peu de ça dans Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi. Et ça, j'avais utilisé cette expression parce que je crois que ça correspond. On parle du système, pour les avocats, par exemple, pour le procès qui se déroule actuellement sur le terrorisme, on parle d'un système d'avocats de rupture, en parlant de Vergès et d'une époque, c'est-à-dire de prendre le contre-pied de tout ce qui se fait pour faire autrement. Eh bien, il me semble que dans l'élection présidentielle qui se déroulera dans 7 mois, et à ce niveau de la campagne, à ce moment de la campagne, Zemmour est le candidat de la stratégie de la rupture.
En 2017, vous auriez dit qu'il était disruptif.
Il est, oui, mais c'est la rupture aujourd'hui. Et or, si on remonte un peu dans l'histoire politique, il y a guère que Jean-Marie Le Pen, je dis bien Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, mais il faut le dire aux gens parce qu'il y a des jeunes qui comprennent moins. Et Le Pen, pour eux, c'est Marine. Donc, si vous voulez, Jean-Marie Le Pen en 95 et en 2002 il a été en 95 à 14%, je crois, et en 2002, il a été au deuxième tour.
Bien sûr.
Il a été parce qu'il était, à l'époque, perçu par toute la classe politique comme le candidat de la rupture, c'est-à-dire différent de tous les autres, qui mettait les pieds dans le plat, qui était cash. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, d'une certaine manière, l'intérêt de Zemmour, c'est ce côté cash, disruptif, candidat de la rupture.
D'accord, Michel Cotta.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi, je vois ça. Ce qui me frappe, c'est sa jubilation dans ses photos. On voit des photos sombres, au contraire, avec des yeux qui rient, qui sourient. Il est très content. Moi, je le connais depuis très longtemps. Nous le connaissons tous depuis très longtemps. J'ai même assisté à ses débuts.
Et vous avez lu son livre.
J'ai lu son livre. Mais ce qui est intéressant,
vous riez.
C'est que, au fond, il rêvait de ça. Il rêvait de s'imposer en polémiste, mais en polémiste politique, et de prendre ce poids qu'il a et qu'on lui donne. Alors, il y a quand même.
Mais c'est quoi la jubilation ? Parce que là, vous êtes en train de nous dire que.
Ah, ben c'est l'emmerde tout le monde.
C'est ça.
Voilà. Alors, justement, la question est celle-là. À qui prend-il des voix s'il a plus de 10%?
Oui, non, mais la vraie question, c'est qui a peur de Zemmour ?
Voilà. Qui a peur
dans
de
le monde
Zemmour
politique ?
À qui donc ?
Tout le monde.
On se dit d'emblée, ah ben. C'est sûrement d'abord à Marine Le Pen qu'il en prendra. Après tout, il dit qu'elle n'est pas capable de... Mais je crois, pas seulement, qu'elle peut en trouver du côté d'une certaine droite républicaine qui trouve que finalement Marine Le Pen est un peu molle et que Zemmour dit tout haut ce qu'elle pense tout bas. Je crois qu'il peut aussi en tomber. Je crois qu'il fait mal à tout le monde en réalité. Et d'ailleurs, quand on a 10 à 12% des voix, on fait mal à tout le monde.
Qui a peur de Zemmour ? Catherine Ney.
Bon, moi, je n'ai pas peur de Zemmour, mais...
Non, mais moi,
je voulais vous dire autre chose. C'est qu'il dit... il était déjà un polémiste installé.
Bon, oui.
Et puis tout d'un coup, il dit « Ah, mais mon fils m'a dit... »
Oui.
Ah, écoute, arrête de dire, il faut faire. Alors, parce que le fils le dit, il se lance. Bon. Mais surtout, il dit dans le point... Parce que vous dites, là, tu rappelles Jean-Marie Le Pen. Mais il veut pas du tout être le fils de Jean-Marie Le Pen. Il dit, moi, je suis Trump. Il dit, moi, je me compare à Trump. Alors, moi, je veux bien qu'il se compare à Trump à cause, justement, d'avoir été une cassure et tout ça. Mais
il manque quelques milliards. Dire,
mais, non, mais c'est pas ça. C'est que vous voyez Trump, ce qui était quand même une masse physique incroyable.
Financière aussi.
Une masse financière. Mais une masse financière. Il a surtout battu tous les candidats républicains à la primaire. Lui, il était dans une primaire. Il est devenu le patron du Parti républicain. Excusez du peu. Ce que lui n'aura pas. Il avait de l'argent. Il avait un langage avec 6 mots ou 7 mots, un vocabulaire très restreint. Alors, se comparer à lui, alors que vous voyez ce physique nerveux, ces grands yeux que Michel vient de décrire comme ça, et cette jubilation à l'être, mais lui, c'est un cérébral. Tout se passe là. C'est
et
pas
donc
une puissance physique. Alors, moi, je pense qu'il n'est pas un Le Pen, mais il est ce que Finkielkraut appelle, il dit, la vengeance contre la pensée unique. Les gens en ont marre, voilà. On en a marre d'avoir entendu toujours la même chose, la même pensée.
Ce qu'on appelle là, aux États-Unis l'establishment, un peu.
Mais un peu, si
c'est
vous voulez.
C'est ça que j'appelle la stratégie de rupture.
Mais voilà.
Et effectivement, quand tu le prends dans le détail, tu as très bien décrit, il n'a pas le, sûrement, pour beaucoup de gens, il n'a pas le physique d'un président. Pour beaucoup d'autres,
enfin, ça a déjà été entendu sur d'autres.
Non, mais il y a plein de critères sur lesquels on dit, non, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas
on
ça.
On va arrêter sur
mais
le physique.
Mais il a quelque chose qui fait, pourquoi le mot Trump, pourquoi ça fait tilt quand on a dit qu'on le compare, qui se comparé à Trump, c'est que Trump, c'est celui qui a, pour les gens, c'est l'homme qui a eu le courage de casser la baraque.
Alors,
de casser la baraque et de se faire élire.
Non mais il pose, quand Gérard parle de
Charles,
la stratégie... Quand Gérard parle de la stratégie de rupture de Jacques Vergès, avocat, c'est par rapport à la stratégie de connivence, par rapport au juge, de tous les avocats quasiment, de la corporation des avocats. Bon. Et lui... Il faut reconnaître, à l'exception évidemment des journalistes, surtout du service public qui n'arrêtent pas de lui tailler des costards et d'aller le chercher, il n'y a pas que les journalistes de service public, beaucoup d'autres aussi se joignent, bon, peu importe, mais il fait peur à un certain nombre, y compris à l'Élysée, y compris chez Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen a perdu sa dimension anti-système, et donc y compris chez les Républicains. Bien évidemment, il gratte partout. Dans le sondage auquel a fait allusion de l'IFOP, Gérard, 10 points, il prend partout. Il prend plutôt en majorité chez Marine Le Pen, mais il prend aussi chez les Républicains. Et donc,
Xavier Bertrand, apparemment.
Et partant de là, il peut priver Marine Le Pen, notamment, d'un second tour. Et c'est ce qui inquiète notamment l'état-major politique
du RN avec Sébastien Chenu qui hier disait Zemmour devrait donner un coup de main à Marine Le Pen. On continue le débat juste après une première pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Et vous les connaissez, les grandes voix d'Europe 1. C'est Gérard Carrero, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On est en train de parler d'Éric Zemmour, Michel.
Alors, ce qui est drôle, c'est paradoxalement cette... possibilité d'être disruptif et de rentrer dans un jeu en bousculant tout, au fond, qu'est-ce qu'il a inauguré, ce jeu-là ? C'est Emmanuel Macron en 2017.
Et maintenant, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot disruptif.
Beaucoup de gens se disent, après tout, beaucoup de gens, enfin, en tout cas, Éric Zemmour se dit, après tout, il est parti, Emmanuel Macron, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'influence politique, sans parti, et contre le président de la République, et ça a marché. Et bien moi, après tout, je peux faire la même chose. Et je crois que c'est une inspiration qui restera longtemps. On a dit, ah, mais il faut un parti, des légions pour être élu. Eh bien, peut-être que dans le monde actuel, où justement les partis sont en cause et l'influence politique aussi, on se dit, ah, quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui débouche, il a des chances.
C'est pas la première fois qu'un candidat fait peur à tous les autres, hein.
Ah ben non, mais on rappelle que Jean-Pierre Chevènement avait en 2002 14 à 16% des voix avant.
Mais il faisait peur à la gauche, avant, pas à tout le monde.
Sous votre contrôle, Georges Marchais, qui avait des scores absolument incroyables dans les sondages, faisait peur aussi
à la gauche.
Tandis
que Zemmour, il fait peur à tout le monde.
Je parle de Georges Marchais parce que c'est vrai qu'on regarde les nouvelles générations regardent avec amusement les débats avec Jean-Pierre Elkabbach, où il y a plein de citations, voilà. Mais en réalité, c'est un candidat qui faisait peur, et même aux journalistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il était là parce qu'il avait un potentiel électoral immense.
Ah oui, moi j'avais
peur. Mais Zemmour, il impose.
Voilà. Quand j'interviewais Marché, j'avais peur, moi.
Oui, voilà. Oui, moi j'avais
moi,
pas
ça
peur,
me faisait
mais
plutôt
bon,
rire.
Il était impressionnant quand même. Oui. Mais Zemmour, il impose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a imposé aujourd'hui? Il a imposé pratiquement à tous les candidats sur tous les plateaux possibles et imaginables les débats sur l'immigration et sur l'insécurité. Mmh. Alors que c'était des thèmes qui étaient des thèmes qui avaient été effectivement amenés sur la table par Jean-Marie Le Pen et qui étaient le fond de sauce du Front National. Lui, il a renouvelé ces débats et il y ajoute ce que j'appelle le côté effectivement de rupture. Quand il parle des prénoms, il sait très bien le débat sur les prénoms, oui. Il sait très bien que ça va faire hurler.
Ça fait hurler.
Des centaines de milliers de gens, ne serait-ce que tous ceux qui ont un prénom
Gérald Darmanin,
à consonance étranger, etc.
Oui, il avait même dit que Sarkozy n'aurait pas dû appeler sa fille Julia.
Mais voilà, mais ça fait rien. De la même manière, quand il dit, c'est pas innocent, quand il dit « moi je suis philosophiquement pour la peine de mort », ça veut pas dire qu'il proposera dans son programme le rétablissement de la peine de mort, mais dans la tête d'un certain nombre de Français, ils entendent « ah ben oui, quand je vois tous ces gens
Mais ça veut dire quoi? C'est des coups de poker?
C'est pas des
c'est
coups
du
de
bluff,
poker,
comme on dit
non,
au poker.
C'est pas
non.
du bluff, non. Ça veut dire la construction de quelque chose qui est basé en partie sur du rationnel, l'insécurité, c'est pas un mythe, et sur une part d'irrationnel, c'est-à-dire de retour
non, mais,
à des choses.
Alors, il amène des sujets qui sont sur la table par la droite traditionnelle et également par la République
en Marche,
parce qu'il y a une loi, sécurité en ce moment avec Gérald Darmanin.
Il les amène, mais il les renouvelle.
Donc il les banalise.
Non, il lève les derniers tabous sur ces sujets-là. Il dit sans arrêt, il faut virer tous ceux qui sont étrangers, qui sont emprisonnés, etc. Et il amène l'opinion.
Pardon, les solutions. Effectivement, on entend tout ça et il le fait très bien à sa manière. Et en plus, le contexte est quand même formidable pour lui. Hein. Il a l'Afghanistan, le procès du Bataclan, tout ça qui se joue en ce moment.
Il y a le terreau du terrorisme.
Donc, il y a vraiment le terreau du terrorisme. Moyennant quoi, quand on arrive à ses conclusions et à ses remèdes, on trouve les remèdes qui sont partout. On trouve les remèdes. Il ne turbule pas. Alors, s'il turbule le monde politique, il ne turbule pas les remèdes au terrorisme, voilà, et ni à l'insécurité.
Ben on verra quand il proposera les solutions, puisqu'il les
mais
a
là,
pas...
Mais là, il les a, à la fin de son livre, il y en a quand même quelques-unes.
Il fait d'autant plus turbuler le système que quand tu vois quand même une grande famille politique comme la droite, qui n'est plus qu'un rassemblement de syndicats d'élus locaux, qui est incapable, alors que ça patauge de tous les côtés dans ce grand parti, incapable de désigner son candidat, et il pose les vraies questions que ce parti n'a pas osé poser dans les termes où il les pose.
Il y a trop de packaging, vous voulez dire il y a
Mais bien
trop
sûr,
de...
mais évidemment, il va directement au but. Il a changé le langage de ces questions-là. Oui. Et par-dessus le marché, quand tu vois le président de la République qui va à Marseille pour vider les poches de l'État qui sont déjà vides d'1,3 milliard
pour de l'équipement,
pour donner à qui on ne sait même pas flécher l'argent qu'on va donner de toute façon, il n'y a qu'à lire les rapports de la commission, des commissions, de toute façon, de la Cour des comptes. On n'a même pas retrouvé la trace des 3 milliards que Jean-Marc Ayrault a décidé de donner de toute façon à la région. Et donc, de la même manière, évidemment, lui pose le problème de l'insécurité en des termes extrêmement directs. Que ne n'ose pas faire la plupart des partis classiques.
Dernière pause
sans solution.
Dans le débat des grandes voix et on se retrouve dans un instant.